la musique.
Caravana la maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, HTTP.
Notamment à Mulhouse.
Notamment à Mulhouse, rl.fédération-anarchiste.org, fédération sans E, -anarchiste.org. Eh bien, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques curieuses, aux musiques bizarres.
Singulières.
Singulières et autres formes de création multiples, variées. Hein. Et aujourd'hui, notre émission est consacrée au Festival Météo de Mulhouse et nous accueillons son programmateur, son directeur.
Bonjour.
Fabien Simon. Bonjour.
Bonjour.
Eh ben alors peut-être, on va dire ce qu'on vient d'écouter, Fabien.
Alors on a écouté le duo Andy Moore et Yanis Kyriakides.
Voilà, qui seront programmés.
Qui seront programmés au festival.
Au festival cette année. Ben peut-être avant tout, on pourrait faire connaissance avec toi. Avant d'être responsable du festival, qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours?
Alors moi, rapidement, on est là quand même plus pour parler de musique, ouais. mais rapidement, moi je suis bourguignon, donc de naissance, voilà, je suis né à Auxerre, et puis j'ai fait un peu d'études quand même, et puis j'ai voyagé un petit peu, donc je suis parti à Grenoble faire des études de journalisme.
Ah oui.
Voilà, mais bon, l'idée, c'est vrai que dès le départ, moi, je faisais de la musique par ailleurs, etc. Et mon idée, c'était quand même d'écrire sur la culture et sur la musique, notamment. C'était ça un peu mon idée quand j'ai fait du journalisme. Et puis après, les rencontres de la vie, etc., ont fait que après mes études, j'ai travaillé un petit peu en tant que journaliste, mais pas très longtemps, quelques mois. Et puis on m'a proposé de travailler dans un théâtre, une scène nationale, en région parisienne d'ailleurs, en Essonne. Et au début, je m'occupais plutôt de la communication, en fait. Et puis, à force d'aller aux concerts tous les soirs, parce que moi, j'étais un vrai passionné de musique, la directrice m'a rapidement demandé d'aller voir des concerts pour elle, parce que, voilà, elle n'avait pas forcément le temps, elle, d'y aller. Et puis, voilà, je me suis retrouvé programmateur musique aussi de cette scène nationale, où on faisait quand même plutôt du jazz. Mais on avait un département d'art sonore aussi, puisqu'il y avait une salle art numérique où il y avait souvent des collaborations entre des plasticiens, des artistes comme ça et puis des artistes du monde d'art sonore, voilà. Et j'ai fait ça pendant quelques années et puis je suis arrivé à Mulhouse parce que mon prédécesseur Adrien Chiquet a décidé de partir, donc il cherchait quelqu'un, j'ai postulé, j'ai écrit un projet et puis il y a eu un processus de recrutement, comme ça peut se faire un peu partout, voilà, et puis voilà, j'ai fait mon baluchon et je suis parti direction Mulhouse.
Ouais, très bien. Peut-être, moi ça m'intéresse de savoir quel genre de musique tu jouais, quel instrument.
Alors moi j'ai fait de la guitare.
Ouais.
J'ai été biberonné au disque de mon père, des années 70, rock années 70, etc. Et puis Led Zepp, Hendrix et compagnie, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai pris un peu de cours de guitare classique aussi, mais plutôt espagnol, Tárrega, Villa-Lobos, etc. Mais en fait, j'avais un prof de musique, mais en fait, j'ai jamais appris le solfège, etc. Ouais. J'ai plutôt développé l'oreille parce que j'étais, je pense, un peu feignant. Et surtout, j'avais envie de jouer tout de suite. Et le côté rébarbatif du côté scolaire de la musique, ça me plaisait pas tellement. Ouais. Donc voilà, j'ai fait mon petit parcours là-dedans, mais purement amateur. Et je pense pas que tu me verras un jour avec une guitare à un concert. Hein.
et en tant que spectateur, qu'est-ce que tu allais voir comme musique du coup
Avant que ça soit mon métier, moi j'ai eu une éducation musicale qui a été crescendo. Comme je te dis, j'ai commencé plutôt par le rock, donc j'étais très très rock. Et puis de fil en aiguille aussi, je pense que c'est pour la plupart des gens, c'est comme ça. Hein, en écoutant du rock, on se retrouve avec ou de la funk. Moi j'écoutais beaucoup Prince pendant un moment et j'ai su que Prince travaillait avec Miles Davis, donc je me suis intéressé à Miles Davis Miles Davis en Coltrane et puis de Coltrane, enfin voilà, et puis petit à petit j'écoutais beaucoup de choses très très différentes. Je peux aller voir Radiohead en concert, comme je peux aller voir un concert de musique contemporaine ou de musique classique. Mes goûts sont vraiment très éclectiques en tant que auditeur et que spectateur. Voilà. Ouais, après, évidemment, pour le métier que je fais maintenant, j'écoute beaucoup plus de musique improvisée, etc. Et je vais voir beaucoup de concerts, mais j'allais déjà en voir. J'allais aux Instants Chaviré déjà beaucoup. J'ai été beaucoup au Festival Sons d'Hiver aussi, quand j'étais à Paris ou à Banlieue Bleue. Donc, j'ai fait mon éducation musicale comme ça. mais je suis pas du tout musicologue, par exemple. Je suis pas une encyclopédie de la musique, parce que c'est vrai qu'au festival, on rencontre parfois des gens qui sont vraiment... et ils peuvent me coller à tout moment.
Bon, alors, comme ça, c'est le grand jeu.
Bah, nous, on va pas essayer de te coller, on va simplement te demander l'histoire du festival Météo, anciennement Jazz à Mulhouse.
Ouais.
Comment ça a commencé, sur quelle base, sur quelle...
Ouais, il y avait un festival effectivement qui s'appelait Jazz à Mulhouse tout au début, c'était même avant Paul Kanitzer, puisque ouais. Paul est arrivé un petit peu après. C'était vraiment un festival d'animation culturelle d'été, avec du jazz très traditionnel. Et puis quand Paul a pris la main au milieu des années 90, je ne me rappelle plus la date exacte, mais lui c'était un grand fan de free jazz notamment, et de musique improvisée. Il était directeur de l'AMC, donc c'était les Maisons de la Culture à l'époque à Mulhouse, et puis il a programmé les pionniers du free jazz européen dès le début des années 70, donc Brotsman, Fred Van Hove, Ivan Parker, tout ça, Schlippenbach, ils sont passés dès les années 70.
L'ICP également.
Quand il a décidé de reprendre le festival, il voulait pas faire l'énième festival de jazz, d'animation culturelle, parce que son idée c'était d'en faire quelque chose d'important. Et voilà, les gens, l'été, ils préféreront toujours aller à Marciac ou à Juan-les-Pins pour écouter du jazz, plutôt qu'à Mulhouse. Et lui, je pense que ses goûts, à lui, étaient vraiment orientés vers le free jazz et la free musique européenne. Donc il a décidé d'en faire un festival important pour ces musiques-là.
C'est sûr. Ouais.
Et il y est arrivé. En quelques années.
Même au-delà, moi je me souviens de la première fois que je suis allé à Mulhouse, c'était en 97, et j'y avais été. Alors bon, je m'intéressais un peu au jazz, mais surtout au rock en fait. Et il y avait une programmation très rock en fait. Hein,
il y avait aussi des groupes de.
Palinx,
de...
Yves Abitoura par exemple, The X,
Charter
O cette année-là. Je me demande s'il n'y avait pas les Québécois également.
René Lucier.
Lucier de Rome. Enfin, c'était vraiment. Moi qui étais plutôt issu de. On en parlera peut-être de Fred Frith, de Step Across. The Border, qui sera diffusé cette année au festival, je m'y retrouvais totalement. Quoi.
Ouais.
Et je me souviens même qu'on était des jeunes branleurs, on faisait chier Kanitzer en lui disant on lui donnait des noms de groupe.
Des noms de groupe.
Des trucs tchèques et tout. Il nous disait oh les gars, déjà, alors voilà, c'est une question aussi. Est-ce qu'il y a eu à un moment des frictions par rapport au fait que le festival ça s'appelait Jazz à Mulhouse, et qu'effectivement avec tous ces groupes-là, et même y compris avec le free jazz qui n'est pas tout le temps reconnu par les institutions comme du jazz classique, est-ce qu'il y a eu des frictions par rapport à ça qui pourraient expliquer le changement de nom?
Je pense que la programmation elle a évolué petit à petit aussi avec les musiques c'est des musiques en mouvement. Enfin, ce qu'on propose c'est des musiques en mouvement, et de rester figé dans un genre particulier, je pense que ça n'a jamais été ce qui était voulu par Paul ou par Adrien.
Sauf qu'il y a une recherche permanente qui est accompagnée par les programmateurs, en fait. Donc,
exactement. Coup, on essaye de suivre tant bien que mal, même si, évidemment, les musiciens ont toujours un temps d'avance sur nous. Hein, mais c'est pour ça qu'on n'est pas musicien. Je pense qu'il a essayé de suivre ce courant-là. Peut-être après, il a décidé de partir lui en retraite, bien mérité. Mmh. Et puis quand Adrien est arrivé, il est arrivé aussi avec son idée.
Adrien
Chiquet, voilà,
qui a pris le relais.
Paul en
2000, donc entre 2003 et 2006.
Je crois qu'il est arrivé en 2004-2005 aux côtés de Paul, et puis après il a pris son envol tout seul à partir de 2007. Mmh. Et donc il a amené ses goûts aussi, et puis c'est lui qui a fait le changement de nom en 2009. Qui était pour une raison simple, effectivement, c'est que le festival s'appelait Jazz à Mulhouse et les gens qui voulaient voir du jazz ne s'y retrouvaient pas forcément. Et à contrario, des gens qui ne voulaient pas forcément voir de jazz mais qui auraient pu être complètement intéressés par les musiques qui étaient proposées ne venaient pas parce que ça s'appelait Jazz à Mulhouse. Donc l'idée d'Adrien c'était de rompre avec le nom, de mettre un nom plus neutre qui du coup ne pose aucune étiquette à la musique qu'on fait, et comme la plupart des musiciens qu'on invite justement essayent d'enlever toutes les étiquettes à la musique, ça tombait bien. Après, c'est sûr que pour ce qui est des programmateurs ou du public, même s'il y avait un public mordu de free jazz qui voulait que ça et qui est peut-être un peu parti, mais il y en a d'autres qui sont arrivés, le lien s'est fait comme ça. Mais les institutionnels préfèrent toujours qu'on se mette dans une case bien précise, on ne l'a pas. Mais ça nous va bien, ça nous va bien.
Et alors, peut-être c'est une question bête, mais pourquoi météo, en fait, parce que...
Alors bon, c'est pas moi qui choisis le nom.
Quand même.
Donc, j'en ai parlé un peu avec Adrien, non, l'idée c'était de trouver un nom, je pense que c'est venu comme ça. C'est venu, je crois, il m'a dit pas... assez récemment d'ailleurs que il se trouve que cette année on invite le duo Olivier Benoît et Jean-Luc Guillonnet, et donc ce duo-là n'a pas de nom, mais ils avaient fait un projet bien particulier qui s'appelait Météo.
Ah bon,
et il m'a dit il y a pas très longtemps que ça avait sans doute fait écho à lui chercher un nom un peu neutre. Il y a le côté imprévisible de la météo, du temps, et voilà, il y, y avait un peu ce côté-là. C'était assez poétique, c'est aussi assez facile de décliner en termes de communication. Voilà. Mais bon, il faudrait l'inviter lui pour dire vraiment précisément comment ça s'est passé, mais moi j'assume totalement.
Sauf que quand tu tapes météo sur ton moteur de recherche favori, tu tombes pas forcément.
Non, mais si tu tapes festival météo, tu trouves, on sera les premiers à l'autre de la liste.
Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, peut-être tu peux alors nous expliquer tes choix de programmation de cette année, par exemple.
Toi, tu arrives en 2012 aussi, peut-être pour.
Ah oui, oui.
Alors, moi, je suis arrivé en 2012. Ouais. Adrien, partant, j'ai pris son relais. Voilà, donc la programmation 2012, c'était Adrien qui l'avait faite. On a fait quelques semaines comme ça ensemble pour faire la passation. Puis Adrien est parti à ses nouvelles fonctions à Londa. Et puis, voilà, moi, la première programmation qui est 100% de moi, c'est 2013. Donc ouais, ça sera donc la troisième année. Ouais.
Alors justement, tu disais qu'Adrien Chiquette est venu avec ses propres idées et ses propres goûts. Et toi, tu es venu avec quelle particularité, on va dire?
Je suis venu avec ma personnalité, mes goûts aussi. Il se trouve quand même que finalement, je pense qu'il y a forcément des groupes que j'invite qu'Adrien n'aurait pas invité, et réciproquement. Enfin voilà, c'est certain, mais quand même, je pense qu'il y a une certaine continuité. Ouais. C'est sans doute plus d'ailleurs les spectateurs qui pourraient le dire, mais je pense qu'il y a une réelle continuité qui n'est pas voulu telle quelle, c'est-à-dire que ça correspond aussi à mes goûts. Je me force absolument pas à programmer quoi que ce soit. Quand je suis arrivé, si j'ai aussi décidé de venir, c'est parce que j'avais une bonne connaissance de ce qui se faisait avant, et que j'étais conscient aussi de l'histoire de ce festival. Et il n'était pas question de rompre absolument avec déjà ce qui marchait, et puis aussi avec les groupes qui étaient proposés, ou en tout cas la ligne artistique qui était proposée. Après, évidemment, au cas par cas, il y a forcément des goûts. Moi, venant du rock, peut-être qu'il y a des choses un peu plus rock, mais comme tu dis, il y a toujours eu des choses assez rock, donc en fait, pas vraiment. voilà, mais comme j'ai des goûts très éclectiques, je pense que ça se ressent aussi sur la programmation. Il y a toujours du free jazz, mais c'est pas la majorité de la programmation. Il y a du free jazz, cette année il y a du blues, il y a du no wave, il y a de la musique expérimentale électronique, de la musique improvisée, il y a même de l'afro-funk, il y a des choses très très différentes. Mais en même temps, j'espère en tout cas qu'il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça.
Oui, je pense.
Moi j'ai une question à propos des... Comment est-ce que tu réalises la programmation? C'est-à-dire, est-ce que d'année en année, tu commences à faire une liste des musiciens que tu aimerais inviter aux éditions suivantes?
C'est très empirique, en ce qui me concerne en tout cas. C'est que je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup, quand même. Je pense que les musiciens peuvent le dire. Je me déplace beaucoup, je vais voir quand même beaucoup de festivals, et pas qu'en France, voilà. Et je fonctionne un peu au coup de cœur comme ça, c'est-à-dire que effectivement, il arrive l'automne, je me fais pas une liste de musiciens en me disant les appels, qu'est-ce que tu veux faire, on fait ça, c'est pas comme ça que je fonctionne, et Adrien, je faisais pas comme ça non plus. Je vais voir beaucoup de choses, et donc dans les choses que je vois, il y a forcément des choses que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'inviter, donc à partir de là se construit une espèce d'ossature, de squelette comme ça de la programmation. Ensuite, on organise des stages, des workshops aussi chaque année. Donc ça, c'est aussi les musiciens que je choisis quasiment en premier, parce que ça implique une autre communication, etc. Donc effectivement, on réfléchit assez en amont sur les musiciens qu'on a envie d'inviter pour les stages. Donc à faire, voilà. Et forcément, les musiciens qui font les stages jouent aussi des concerts, sachant que eux, généralement, bon, soit il y a un projet d'eux très précis que j'ai envie d'écouter, mais aussi on leur donne parfois des cartes blanches aussi. Voilà, mais je crois qu'il y a à peu près trois quarts des groupes qui sont programmés, c'est des groupes que j'ai vus sur scène. Dans le cas restant, il y a quelques cartes blanches à des musiciens, effectivement, à qui j'ai envie de donner la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire. Et puis, il peut y avoir quelques projets sur disque, très très rarement. Franchement, ça peut arriver, évidemment, très rare. Et voilà. Donc ça se fait au fur et à mesure, je me déplace toute l'année. En fait, la programmation, on y réfléchit toute l'année. Évidemment, déjà aujourd'hui, j'ai vu des choses que j'aimerais bien programmer l'année prochaine. Mais je le pose pas sur papier, tout ça, ça se fait au fur et à mesure, et puis je m'y mets à l'automne, et puis voilà, après on essaye de construire une cohérence dans tout ça. Voilà.
Peut-être on peut écouter un peu de musique.
On peut écouter un peu de musique. Quand même.
Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, je sais pas si vous voulez faire dans l'ordre chronologique de la programmation ou pas forcément.
Pas forcément. Non.
Donc, on peut programmer quelque chose que j'ai vu sur scène. Un groupe qui tourne pas mal, ça s'appelle Kazé. Ouais. De Christian Pruvot, Peter Orens et de musiciens japonais mais qui habitent à Berlin, Satoko Fuji et Natsuki Tamura. C'est un groupe que j'ai vu qui tourne pas mal et dans ces musiques-là, on sait que c'est de plus en plus difficile de tourner. Donc voilà, c'est bien, je suis content de les avoir.
Thank you.
Les Oreilles Libres, Radio Libertaire, et Fabien Simon est notre invité aujourd'hui pour parler du festival Météo qui aura lieu du 25 au 29 août, disons pour la partie finale, parce que en fait ça, il y a des prémices petit à petit, ça installe dans la ville.
Ça, le festival international historiquement c'est ça, voilà. C'est la dernière semaine d'août. Après on a évidemment des actions en parallèle, on fait des choses, que ce soit pendant l'année ou avant, on va un peu à la campagne essayer de chercher d'autres publics aussi, et puis aussi de faire des trucs un peu fun aussi, hein. C'est sympa de se balader à la campagne.
Et avec d'autres musiciens. Mais donc voilà, la partie internationale, mais déjà 5 jours de programmation internationale, c'est déjà beaucoup pour un festival.
Bah c'est beaucoup, c'est de plus en plus rare, hein. Je crois, on a plus tendance à voir des réductions de calendrier plutôt que des essors. Bon, historiquement, le festival faisait 6 jours, hein, même. Hein. Ah. Ça a commencé dès le lundi, à l'époque de Paul. Donc ça, on a réduit aussi, nous aussi, on a eu notre lot de réduction, mais bon, voilà, on résiste sous cette forme-là pour le moment. Combien de temps ça durera, l'avenir nous le dira.
Par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de festivals qui sont annulés, on lit ça partout. Mmh. Ouais, météo, ça va, il n'y a pas de danger encore, ou...
Il y a pas de danger immédiat, en tout cas, pas à ma connaissance.
t'as pas lu, hein. Non, parce que bon...
non, mais c'est vrai qu'on est plutôt bien soutenu.
La ville, notamment...
La ville, c'est notre principal partenaire, et on sait que c'est là où le bât blesse bien souvent. Et nous, historiquement, bon après, même si c'est toujours un festival qui fait débat, hein, de toute façon, je pense que le jour où ça ne fera plus débat, ça m'inquiétera d'ailleurs, mais c'est évidemment, à Mulhouse, c'est un festival qui fait débat parce que c'est pas quelque chose de consensuel, etc. Mais bon, voilà, justement, Paul a réussi à faire de ce festival quelque chose d'important. Voilà, les gens sont parfois des fois ahuris de voir un couple de Russes débarquer fin du mois d'août à Mulhouse. Voilà, c'est que s'il y a des gens qui se déplacent d'aussi loin pour ce festival, c'est quand même, c'est devenu quelque chose d'important, pour en tout cas un certain nombre de publics.
Et donc, la preuve, on en parle sur Radio Libertaire.
C'est la preuve.
Alors, je ne sais pas si c'est une preuve, ça, mais bon.
Pardon. Mais bon, voilà, donc il y a quand même un certain rayonnement, et puis il y a quand même un peu de monde dans les salles. Donc, pour l'instant, on tient le coup.
Bon, donc on vient d'écouter, je ne sais pas si on les a présentés, on les a présentés avant de les écouter, c'était...
Casé,
voilà. Ouais, alors c'est voilà, un quartet aussi dans la tradition plus jazz aussi, c'est aussi pour dire que même si le festival Météo a perdu le nom de jazz, même si l'association s'appelle toujours Jazz à Mulhouse, hein, mais le festival s'appelle Météo, même si on a perdu l'intitulé jazz dans le nom du festival, il y a toujours des choses qui s'apparentent au jazz dans le festival, et le quartet Casé en fait partie, avec donc deux musiciens notamment qui sont quand même assez actifs sur la scène française.
Notamment vers Lille.
Musix, effectivement, et qui sont à coquiner avec deux musiciens japonais qui habitent à Berlin, et notamment Satoko Fuji, qui a quand même une bonne carrière notamment dans les orchestres de masse notamment, et qui joue à l'international, et son compagnon de route, le trompettiste Natsuki Tamura. Et voilà, c'est un groupe qui fait assez l'unanimité en fait partout où il passe. Je crois que l'année dernière ils étaient programmés à Luz, et je crois que c'est un des concerts qui a marqué un peu tout le monde. Voilà, Anne Montaron l'a invité aussi dans son émission à l'improviste. Voilà, ils ont joué beaucoup dans les clubs, etc. Et nous, voilà, ce qu'on essaye de faire aussi à Météo, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de programmer des groupes qui jouent. C'est-à-dire voilà, des groupes qu'on peut voir sur scène, qui ont aussi une certaine maturité aussi dans leur jeu, du fait d'avoir joué un grand nombre, en tout cas un certain nombre de concerts ensemble. Notre but étant toujours de programmer les meilleurs concerts possibles. Alors évidemment, quand on touche à l'improvisation, il y a forcément des fois des ratés, puis il peut y avoir des bons concerts ou des mauvais concerts, mais en tout cas...
Et Christian Prévost, moi je me souviens du magnifique solo qu'il avait fait
effectivement,
à la chapelle Saint-Jean, peut-être on peut aussi parler de ce lieu-là.
Je voulais en venir là, peut-être aborder le festival, non pas comme on fait souvent chronologiquement, machin, mais peut-être sous l'angle des lieux.
Ouais.
Et notamment, je te demandais en antenne, est-ce qu'il y avait encore cette journée en Suisse, tu disais non, et parce qu'il y a quand même des lieux assez particuliers, notamment cette chapelle. J'imagine que ta programmation, elle va être aussi liée à ça, quoi.
Bien sûr, on a essayé de faire un festival qui, mais bon, maintenant beaucoup de monde le fait, mais de sortir un peu des salles de concert habituelles. Mais la chapelle, ça fait, voilà, c'est vraiment un lieu historique incontournable du festival, et je pense que si on enlevait ça Ce serait une catastrophe.
Je précise pour les auditeurs de Radio Libertaire que c'est une chapelle
désacralisée.
Oui,
il y a mis l'office.
Voilà, rassurons-nous.
Ouf. Et je précise aussi que ça n'a rien à voir, mais c'est important ça, que les concerts sont à 12h30. Donc oui, c'est aussi une façon de commencer la journée avec souvent des petites formes, c'est-à-dire des solos.
Ouais. Bah, la chapelle n'est pas très très grande déjà. Et puis on fait une musique à 90% qui est vraiment purement acoustique. Évidemment, on programme des choses qui vont avec ce lieu. C'est un endroit quand même assez beau. Il y a une très belle lumière à 12h30, une acoustique assez formidable. On est assez proche de la scène et tous les musiciens veulent jouer dans cette chapelle. On n'en a que 4 concerts dans cette chapelle dans la série, mais il en faudrait le triple pour contenter un peu tout le monde.
Il y a une ambiance particulière, notamment, effectivement, comme dit Laurent, c'est à midi et on voit les gens qui ont fait la fête la veille.
C'est-à-dire que les
concerts, on peut enchaîner directement parce qu'il y a un petit apéro.
On essaye d'accueillir le public comme il se doit. C'est une terre de vignobles.
Je pense que vous y arrivez, c'est pour ça que je le dis.
Merci, en tout cas, c'est aussi un autre but parce que il y a le côté musique évidemment, mais on essaye aussi d'insuffler une vraie ambiance de festival et de festivalier. Il y a beaucoup de gens qui sont là sur 5 jours et c'est un peu, ambiance un peu des fois colo de vacances, mais c'est ça qui fait aussi le charme, je pense, du festival. On essaie d'entretenir ça vraiment.
Et puis, du coup, peut-être c'est l'occasion de parler des stages aussi, parce que c'est vrai que ça contribue à l'ambiance, cette ambiance-là.
Ouais, puis ça a contribué aussi au rajeunissement aussi un petit peu du public, ce qui est important. On organise effectivement depuis maintenant au moins plus de 15 ans des workshops en parallèle du festival, donc qui se déroulent les jours du festival et qui sont, j'aime pas le mot dirigé, mais en tout cas qui sont
animés.
Par des musiciens qui sont invités au festival. Donc il y a dans chaque stage, il y a entre 10 et 15 musiciens. Il y a des amateurs, il y a des semi-professionnels. On fait pas de tri, quoi, dans le sens où les absolus débutants qui ne savent même pas ce que c'est l'improvisation, on essaye quand même d'éviter, dans le sens où c'est bien aussi que chacun sache à peu près où il met les pieds, etc. Mais en fait, ça n'arrive jamais. le niveau est plutôt homogène. Ça permet à des musiciens de travailler pendant 4-5 jours avec des artistes, de partager sa vision de voir la musique et puis d'être vraiment au cœur du festival, puisqu'on fait en sorte que les stagiaires puissent voir tous les concerts du festival. Donc c'est une semaine hyper dense pour eux, ça c'est clair. Le silence ne doit pas faire de mal à la fin de la semaine, mais ça participe aussi à tout ça. Je pense qu'on joue notre rôle aussi de pédagogie par rapport à ça, et puis on se rend compte au fil des années qu'il y a plein de musiciens qui ont fait des stages qui se retrouvent programmés sur la scène. Il y a une année, première année de programmation en 2013, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 qui étaient programmés, qui avaient fait des stages par le passé, sans que je le sache, évidemment, parce que moi j'ai débarqué.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Bah, Eve Risser a fait, Yuko Oshima, Julien Després, il y a plein de jeunes musiciens qui ont fait des stages à Mulhouse, qui ont suivi leur chemin, et puis après qui se retrouvent évidemment programmés. C'est une des parties importantes du festival, et effectivement, ça a permis même si c'est pas forcément une stratégie, mais c'est quand même important de penser au public de demain, parce que on sait que dans les festivals de jazz, le public peut être un peu vieillissant, et j'aurais pas envie que le festival meure avec son public.
Puis alors, tu parlais de rencontres entre musiciens, moi je dirais tout simplement rencontres humaines aussi. Puis tu le soulignes toi-même, c'est aussi, j'imagine, un aspect important.
Très important. Très important. Enfin, après, on y arrive ou pas, mais. En tout cas, oui, la dimension humaine autour du festival, c'est une préoccupation de chaque instant.
Bon, alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail ces musiciens-là, ces 4, je crois, musiciens qui proposent des workshops, quels sont-ils ?
Ah oui, alors cette année, il y en a effectivement 4. Alors, le premier qu'on peut nommer, c'est un stage de voix, donc avec Benia Tachiari, donc une figure bien connue des musiques improvisées, chanteur basque, qui est venu régulièrement au festival, quelqu'un pour le coup humainement assez incroyable. Il avait fait une résidence à l'époque où c'était Sébastien Coste qui était résident. Ils avaient fait le groupe qui était en résidence. Il y avait Benia Tachiari, un groupe qui s'appelait Earthy Bird. Ça m'avait permis de connaître aussi personnellement le personnage. Et je m'étais dit que ça serait déjà parce que lui, ça lui arrive régulièrement de faire d'animer des stages. Donc il a cette fibre pédagogique. Et puis je me suis dit que les gens qui allaient passer une semaine avec Benia, ils allaient passer vraiment des bons moments, voilà, Beignat.
Peut-être on peut en profiter pour dire donc qu'il joue le 26 ouais. août avec Didier Lasserre.
Avec, en duo, en duo dans la duo chapelle Orcel, justement.
Orciel, pardon, dans la chapelle justement, dans la chapelle Saint-Jean.
Voilà.
À midi et demi.
Exactement. Ensuite, on a Fred Friis.
Fred Friis.
Donc alors, bon, alors
faut-il le présenter
faut-il le présenter à cette antenne je sais pas, je pense qu'on a un grand fan de Fred Friis.
Ah, c'est clair, oui.
Oui, oui. Alors Fred Friis, il se trouve que aussi, c'est un pédagogue. Hein, il est enseignant au Mills College aux États-Unis. Il est aussi enseignant quelques mois dans l'année à Hochschule de Bâle. C'est aussi comme ça qu'on a fait le lien. Bâle, ouais. C'est étant à 30 km de Mulhouse. Voilà. Il était déjà venu au festival en 2009. C'est pas forcément quelqu'un de facile à faire déplacer, mais bon voilà, il avait vraiment envie de jouer le jeu aussi de ce côté pédagogique. Le fait qu'il soit déjà venu en 2009, il connaissait le festival, il avait vu à quoi ça ressemblait, et je pense que le contexte, tout lui avait plutôt plu, donc ouais. Voilà, il était d'accord. Alors c'est un stage qui est pour le coup un petit peu plus court que d'habitude, parce que lui il a des engagements justement pédagogiques aux États-Unis au début de la semaine, mais voilà, il va faire 3 jours de stage et il va jouer donc du coup... Deux fois le soir, un en duo avec un saxophoniste danois qui s'appelle Lothar Anker,
ouais.
qui est aussi bien connu du milieu, et un quartet. Donc là, le duo avec Lothar Anker, ça c'est moi qui lui ai suggéré, et puis le quartet ensuite, effectivement avec Barry Guy, il a beaucoup joué avec Barry Guy, il va jouer avec un de ses anciens élèves justement à Bâle, qui s'appelle Samuel Dussler, qui est un jeune batteur suisse, qu'il a eu en cours et qu'il avait envie d'associer, et puis une musicienne italienne qui fait de l'électronique, qui s'appelle Daniela Cativelli, donc ça sera le... En clôture du festival, dans la soirée de clôture, le samedi.
21h, voilà, au Noumatrouf, le samedi.
Voilà. Il y aura un stage ensuite avec Okyung Lee. Donc Okyung Lee, c'est une violoncelliste coréenne. Enfin, coréenne, mais qui habite à New York. Hein, donc, voilà, qui a aussi...
En anglais aussi.
Ça sera un stage en anglais, oui, parce qu'on voilà, on essaye d'équilibrer, évidemment, tout ça. Bon, Fred Friis, il se trouve qu'il parle en français. Hein, donc, il parle très bien français, donc il n'y aura pas de problème. Et Okyung Lee parlera anglais, mais on fait tous les ans des stages avec des musiciens qui parlent anglais. Ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent, sachant qu'évidemment, on le précise bien. Alors,
oui,
voilà, c'est... Si on n'a rien en musique, on n'a pas toujours besoin de parler. Hein. Voilà. Et alors, ouais, c'est une musicienne que je connaissais évidemment à travers les disques, que j'avais pas beaucoup entendue. Et puis, il y a 2 ans, elle était invitée à faire la programmation du festival Music Unlimited à Vels, un festival que j'adore et où je vais tous les ans. Et donc, du coup, j'ai pu un peu plus entrer en contact avec elle et entrer dans son univers. Et notamment, j'ai entendu son solo qui était aussi dans une église et qui était assez magnifique. Et voilà, peut-être on peut l'écouter. Là, je crois qu'on a un morceau, un exemple. Donc un morceau qui a été produit par Lasse Marog aussi, un musicien norvégien. I'm going to go to the hospital.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au Festival Météo, avec son directeur, Fabien Simon. On vient d'écouter Okyung Lee, qui fera un stage et qui jouera dans...
Ouais, dans plusieurs formations, effectivement, elle anime beaucoup d'activités cette année, Okyung, donc elle fait effectivement le stage, elle a fait un solo à la chapelle le jeudi, midi, voilà, elle jouera... dans un duo avec Lionel Marchetti, donc ça c'est quelque chose qu'elle avait vraiment envie de faire, ils se sont croisés beaucoup dans les derniers festivals et puis voilà, ils avaient envie de faire quelque chose ensemble, et puis elle sera aussi dans le...
Ça
Nonet.
C'est à la filature, donc le mercredi, donc ça sera, ouais. 17h30.
Exactement, et puis elle sera dans l'ensemble électroacoustique d'Ivan Parker le vendredi soir, 9 musiciens, bon casting de choc quand même, et donc voilà, elle joue très souvent aussi avec Ivan Parker, donc... Quand j'ai proposé à Ivan de faire son ensemble, qui savait qu'elle faisait un stage, bon voilà, elle était en haut de la liste des musiciens avec qui il avait envie de jouer.
Alors, on a oublié on n'a pas cité le quatrième intervenant, animateur de stage.
Donc, ce sera Michel Doneda.
Ah oui.
Donc, il y a un habitué du festival quand même, qui a joué. Voilà, c'est quand même un des musiciens les plus importants de la scène des musiques improvisées en France. Et donc, je lui ai proposé de faire un stage parce que je voulais vraiment programmer aussi le duo avec l'Equanine. Ils ont sorti un disque d'ailleurs il n'y a pas cette année, sur le label de Vendeuvre.
Okay. Nous, on les avait entendus au Festival Crack aussi.
Voilà, ils avaient joué au Festival Crack. Ils jouent ensemble depuis très longtemps. Voilà, et finalement, ils avaient joué dans d'autres formations avec des invités, mais jamais en duo. Mm-hmm. Et je pense que c'était une musique qui était parfaitement adaptée pour la chapelle. Et donc, Michel dirigera un stage en plus de faire un concert donc le samedi 29 midi.
À la chapelle Saint-Jean.
Alors oui, alors revenons sur la chapelle. Donc les quatre que tu as dit qu'il y avait quatre concerts dans la chapelle. Donc Okyung Lee, Michel Doneda et deux autres.
Donc il y avait Orsiel avec Beignat et Beignat Achiri et Didier Lasserre. Donc ils seront en duo le mercredi. Et puis le quatrième, ce sera un solo de Akira Sakata. Donc Akira Sakata, c'est un musicien japonais qui est saxophoniste, clarinettiste et vocaliste aussi. Quelqu'un qu'on voit quand même très très peu en Europe et très très peu, je pense, en France. Je sais pas, je saurais pas dire quand il a joué la dernière fois en France, mais il a sans doute dû jouer, mais il y a très longtemps. Et voilà, qui fera un solo donc à la chapelle. ça, je mets mon petit pesant de cacahuète que c'est que sera quelque chose dont les gens s'en souviendront assez longtemps, je pense. Ouais. C'est très très puissant, hein. Très très puissant. Voilà. Donc ça, c'est pour la série à la chapelle, et puis après, évidemment, on va dans beaucoup d'autres lieux, ça change un peu chaque année.
Alors quels sont ces autres lieux? Alors bon, il y a Noumatrouf, c'est
Noumatrouf, ça c'est la salle historique.
C'est là où ça se termine.
Voilà, la soirée d'ouverture depuis quelques années, on le fait dans un lieu un petit peu plus institutionnel puisque c'est le théâtre municipal. Ouais. Voilà, théâtre de la Cine, un théâtre à l'italienne. C'est aussi notre soirée d'ouverture, donc ça nous permet aussi d'inviter tous les partenaires, etc. Ouais. Et puis c'est vrai que classiquement c'est une des soirées aussi où la musique est peut-être la plus accessible, parce qu'aussi on a une jauge plus importante.
L'an passé c'était Albert Marker et Ruba Tong.
Exactement. Ouais. Voilà. Et cette année, il y aura James Blodelmer, donc ce guitariste compagnon de route d'Ornette Coleman notamment, ou d'Art Blakey. Donc bon, c'est un des mythes quand même de free jazz, même mais pas que, hein, évidemment. Donc il jouera en solo dans quelque chose qui se rapproche quand même beaucoup du blues en solo. Moi, c'est un musicien que j'ai beaucoup entendu et que j'ai connu au Festival Son d'Hiver, juste à l'heure, je parlais. Ouais, c'est un festival où j'allais beaucoup, il a beaucoup joué là-bas. Mmh. Et voilà, et puis en deuxième partie, il y aura donc le Surnatural Orchestra, c'est un des grands ensembles français de jazz contemporain, si on peut dire, et c'est un ciné-spectacle. Alors, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis assez dubitatif souvent sur les ciné-concerts et notamment aussi sur les projets qui mêlent vidéo et musique. Donc j'y vais quand même vraiment avec des pincettes. Et il se trouve que ce projet-là, bon, moi le Surnatural, c'est un ensemble que j'avais programmé à l'époque où je travaillais à Évry, justement. Et ça, c'est un projet que justement Adrien Chiquet, qui dans ses nouvelles fonctions de conseiller musical Ondam, m'avait soufflé, me disant quand même tu devrais voir ça, je déteste les ciné-concerts, mais celui-là quand même, il faut absolument le voir. Et du coup, je l'avais vu. Et j'avais vraiment trouvé ça super, à la fois parce que le film, je suis un grand fan de Dario Argento, qui est donc parce que c'est un ciné-spectacle sur un film Profondo Rosso de Dario Argento, et puis parce que c'est plus qu'un ciné-concert, c'est pas un film avec un orchestre qui joue devant, il y a plus que ça, il y a un comédien, il y a une danseuse, il y a une vraie mise en espace, une vraie dramaturgie de l'orchestre aussi avec le film. Il y a un vrai travail sur le film dans le sens qu'ils ont coupé des dialogues, ils ont enlevé la musique, enfin c'est pas juste de l'illustration. Mmh. Et c'est un projet très intéressant, et c'est vrai pour le coup c'est une soirée, je pense, très accessible. Mmh. On a une jauge plus importante aussi dans cette salle là et l'idée, c'est aussi chaque année, voilà, d'aller s'y faire découvrir des musiques un peu créatives, inventives, et puis d'y aller petit à petit aussi avec un certain type de public qui a du mal à franchir le pas.
D'ouvrir des portes pour un maximum de monde, quoi.
Exactement, exactement. Voilà. Après, dans les autres lieux, alors c'est vrai que ça change tous les ans. On est beaucoup allé à la friche DMC, donc qui était une friche industrielle. Voilà, ils trouvent que cette année, ils sont en travaux parce que c'est en plein. Ça a été vide très longtemps. Et puis maintenant, ça commence à se remplir petit à petit, justement, avec des projets, notamment de design, de culture, etc. Donc, ils installaient des machines, etc. Donc, vous ne pouvez pas y aller cette année. On retourne une après-midi à l'entrepôt.
Oh là là.
L'entrepôt qui est un lieu
mythique. C'est
mythique du festival, parce que bon, il y a beaucoup allé par le passé. On n'y est plus allé. Et puis là, voilà, on fait une petite incursion cette année. Voilà,
avec jeudi donc.
Voilà, le jeudi après-midi. Merci. Avec
quelle programmation?
Donc il y aura deux concerts, donc le duo de Jean-Luc Guillonnet avec Olivier Benoît, donc Olivier Benoît qui est maintenant directeur de l'Orchestre National de Jazz, mais qui a à côté aussi un rôle, bon, même s'il joue avec l'Orchestre National de Jazz, mais là il est dans une pratique plus improvisée, un peu plus radicale aussi dans ce duo. Et puis un solo d'un percussionniste batteur autrichien qui s'appelle Martin Brandelmeier, que les gens connaissent notamment dans son trio Radiant.
Nos éditeurs connaissent très bien.
Voilà.
Radiant, trappiste.
Voilà.
J'avoue avoir un faible.
Oui, je savais que tu allais réagir immédiatement. Oui.
Et donc voilà, il a tout un travail en solo qui est assez passionnant, qui est assez écrit en fait. Voilà, de percussion électronique, vibraphone. Je sais pas exactement quelle pièce il va jouer, mais j'avais très envie d'inviter ce musicien. Et puis donc bon, le Noumatrouf tous les soirs, avec quelques soirées qui s'annoncent assez épiques, je pense. Je sais pas si je détaille chaque soirée, c'est peut-être un peu fastidieux.
Il y a la filature aussi.
Ouais, alors la filature, c'est le paquebot culturel mulhousien. Ouais. C'est la scène nationale, mais qui héberge aussi l'orchestre symphonique, le ballet, l'opéra, une médiathèque, enfin voilà, c'est voilà. Et on n'y était plus pendant très très longtemps, parce que c'était une période où ils étaient fermés. Voilà, et voilà, l'année dernière on y était pour un concert de plutôt de musique contemporaine, un projet qu'on avait mené avec l'Orchestre Symphonique où on jouait à sexture de percussion. Voilà, mais la salle était trop petite, mais parce qu'on a dû refuser du monde en fait, c'est un peu bête, mais, mais voilà, c'était dans la salle de répétition de l'Orchestre Symphonique, mais qui est dans la filature. Et cette année, on y retourne effectivement deux après-midi. Donc la première après-midi, il y aura donc, le duo de Hokyung Lee dont on a parlé avec Yonen Marchetti. En première partie, le duo qui est presque un trio cette année, qui s'appelle le Muksa Muksé, qui est notre projet de résidence cette année, donc avec Eve Risser, donc la pianiste, qui est colmarienne d'origine, donc une locale de l'étape.
Ah oui.
Et puis Jean-Luc Guillonnet, qui sera à l'électronique cette fois, le tout mis en son par Augustin Muller, qui est un ingénieur du son, qui est mulhousien d'ailleurs, aussi d'origine. Oui.
En résidence, ça veut dire qu'ils ont pu passer du temps là cette année.
Voilà, on en fait une par an. Je demande à un musicien de me proposer un projet de résidence. On peut le faire grâce à un financement de la DRAC. C'est bien aussi de donner à ces musiciens-là aussi un peu de temps et de moyens pour construire des projets. C'est souvent ils en manquent énormément. Mmh. D'espace, de temps, etc. C'est pas parce que c'est des improvisateurs qu'ils ont pas besoin de temps pour travailler, c'est souvent ce que je dis. Voilà, donc ils ont répété 5 jours à Mulhouse au mois d'avril. Ils vont faire un petit tuilage au mois d'août avant de jouer, ils vont répéter 2 jours et puis ils vont faire leur création officielle de ce projet, même s'il y a eu déjà des ébauches de jeux ensemble, la création officielle de ce projet aura lieu donc le mercredi après-midi à la filature.
Alors, tu parles de la filature, moi j'ai une question, est-ce que le festival et toi en tant que programmateur avait une activité comment dire, régulière à l'année en dehors du festival?
Très peu en fait, il y a eu une saison de concerts, mais avec la coupe des financements on a dû se recentrer sur le festival. Alors ça nous arrive de faire des choses un peu au coup par coup, c'est pas des choses vraiment anticipées, c'est-à-dire je réfléchis pas à une saison parce que je sais voilà, déjà on n'a pas de lieu donc,
il m'avait semblé qu'il y avait ça avec la filature, non, je me suis trompé?
Non, il n'y a pas de saison établie, il y a des partenariats de temps en temps, donc ça nous arrive de programmer des choses, que ce soit avec la filature mais pas que, avec le Noumatrouf et puis avec des petites associations locales aussi. Mais ça se fait un peu au dernier moment, au pied levé. Il n'y a pas très longtemps, on a fait le duo de Corsano, de Chris Corsano et Metteur Rasmussen, dans une ancienne friche industrielle qui s'est développée en atelier d'artistes, etc. Donc on l'a fait avec mon collègue Moussa, qui a aussi une association où il organise des concerts. Voilà, je file un petit coup de main quand je peux avec les bouts de ficelle qui nous restent. Voilà, mais il n'y a pas de vraie saison. Voilà, je désespère pas de peut-être, mais bon, par les temps qui courent, c'est pas évident, mais d'avoir peut-être un peu plus de financement, voilà.
Et à propos de la filature, là, tu parlais de concert à 17h, enfin en après-midi. Une des particularités, je trouve, à Mulhouse, qui a toujours été d'ailleurs, c'est, on disait tout à l'heure, commencer à la chapelle à midi et de proposer à peu près sur toute la durée de la journée. Il y a pas mal de concerts, quoi. C'est assez dense.
C'est très très dense. C'est vrai que c'est intense. Bon, de temps en temps, il y a des spectateurs qui font la passe sur un ou deux concerts, mais ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de problème particulier avec ça. On commence très tôt, parce que même on a même des concerts pour les enfants qu'on fait à la bibliothèque à 11h30.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Où c'est des formats courts. Il n'y a pas que des enfants, mais en tout cas, on fait un format court. Il n'y a vraiment pas de. Les musiciens jouent vraiment leur musique, mais sur un format court, parce que pour s'adapter aussi à la durée d'attention des enfants. Mais, et on va, on programme à peu près. Bon, y a un petit break pour la sieste, quoi. Et après, on programme, c'est jusqu'à. Le dernier concert commence à minuit, finit à 1h du matin. Donc c'est vrai que c'est très très intense. Mais ça fait partie de l'expérience aussi, de l'aventure du festival. Voilà, et puis il y a beaucoup de concerts, il y aura presque 30 concerts sur la semaine. Donc après, les gens peuvent aussi faire leur choix, pour ceux qui sont là toute la semaine, de faire une petite pause à certains moments, de boire un coup, et puis voilà.
Bon, nous on va faire une petite pause aussi. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
On peut écouter, pour illustrer un peu la diversité de ce qu'on fait, James Chance and the Contortions, qui est moi que j'ai beaucoup écouté dans ma jeunesse et que j'étais très content de faire venir à Mulhouse cette année. Pionnier du New Wave, de l'Underground, de New Yorkais, un ami intime de Basquiat, enfin, quelqu'un qui compte, et qui a encore la pêche.
Et qui joue donc le vendredi 28 août. En dernière partie, au Noumatrouf.
Exactement. It's better than pleasure. It's more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now it is the time to lose all control. Distort your body, oh, twist your soul.
control yourself. Hey baby, yep, a bad twister. You'll never, never, never resist it. Control yourself. Control yourself. Your brain, forget about your future. Get jealous, 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 just do pain. Control yourself. Oh, oh, I said you got to. I said you got to. You got to, you got to control yourself. Oh. Oh. Position, and then you shadow your frame, and then you stretch your resistance until your mind slips away. And once you forget your affection for the human race, reduce yourself to a zero, and baby, then you'll fall right in place. Oh! Control yourself one time, control yourself two times, control yourself three times. Control yourself four times. Control yourself five times.
Voilà, les oreilles libres sur Radio Libertaire, toujours avec Fabien Simon pour le festival Météo. On vient d'écouter James Chance. Tu avais une question, il me semble, Marco.
Mais c'est à propos des démarches que tu as commencé ces dernières années, c'est-à-dire de faire rajeunir un peu le festival grâce à une dernière soirée un peu festive.
Ouais, bah disons que c'est ça, c'était quelque chose qui était important à mes yeux, parce que aussi tout à l'heure on parlait de la dimension humaine autour du festival. C'est un festival où il y a parfois des musiques assez ardues, hein, clairement, et puis on en prend un peu plein les oreilles pendant toute la semaine. Et en ce qui me concerne, moi quand je vais à un festival aussi, j'aime bien un peu faire la fête aussi, et puis et m'amuser. Et puis c'est un festival qui avait peut-être une image un petit peu pointue et intello, et ça me semblait en tout cas important. En tout cas, c'est une démarche que j'ai, moi, c'est d'apporter un peu de fun aussi dans ce festival, et de pouvoir avoir au moins un moment ou même plusieurs, parce que je pense qu'avec James Chance on peut danser, hein, ouais. Clairement, mais c'est vrai qu'à la fin du festival, de finir sur une note un peu plus festive et dansante, où voilà, on peut boire un coup tous ensemble, et et se dire au revoir dans la bonne humeur et en dansant. Donc ça fait 2-3 ans qu'on fait ça. La première année, on avait invité des DJ. L'année dernière, il y avait voilà, des musiciens qui jouent au festival comme Louis Laurin, voilà, qui ont un groupe un peu délirant de reprises de musique où ils se déguisent, etc. On s'était bien, bien marré. Et cette année, on invite un... Donc c'est un concert qu'on fait avec une association de Mulhouse qui s'appelle Afro Spicy, et on invite un combo berlinois qui s'appelle Onom Agemo and the Disco Jumpers, où ils font de la musique afro funk, voilà, qui déchire, quoi. Voilà. Mmh. Et j'espère bien que pour les gens que ça intéresse, en tout cas, on va danser et qu'on va s'amuser à cette occasion.
Mmh. Bah, c'est sûr. Hein. Là, il y a un blanc dans la longue émission, on avait prévu, hein, donc il faut pas s'inquiéter, mais... Très bien.
Bah, peut-être qu'on peut, je sais pas, parler d'autres formations qui se représentent au festival. On va pas toutes les citer, on se disait en antenne, parce que ce serait fastidieux. Il y a le site internet, peut-être qu'on peut parler.
Oui, oui, alors il y a le festival, le site www.festival-meteo.fr, où évidemment il y a toute la programmation, avec aussi quelques extraits musicaux ou vidéos de pour ceux qui en ont, parce que évidemment il y a des projets un peu inédits aussi, voilà, où il n'y a pas forcément de traces discographiques ou en images. Mm-hmm. Mais oui, donc ouais, c'est un peu fastidieux de tout détailler. Peut-être ouais. On peut parler d'Ivan Parker. Alors Ivan Parker, ouais. C'est évidemment un musicien incontournable de Seine-Seine qui a beaucoup joué à Mulhouse, mais qui finalement n'était pas venu depuis 6 ans. Donc je m'étais dit que 6 ans c'était suffisant et que j'avais envie de vraiment le leur faire venir. Je suis allé voir c'est un projet qu'il développe depuis quand même quelques années maintenant, son projet d'ensemble électroacoustique, où il a fait plusieurs disques qui sont sortis sur le label ECM d'ailleurs, et je suis allé le voir à Londres jouer ce projet, et puis voilà, on s'est dit qu'on ferait... Qu'on montrerait deux facettes de son travail, c'est-à-dire son travail de free music européenne, voilà, avec son trio historique avec Barry Guy et Paul Litton, qui invite pour l'occasion Peter Evans, qui est voilà, un des jeunes musiciens, en tout cas, montant de cette scène. Et puis, à côté de ça, son projet donc, d'ensemble électroacoustique, où ils seront 9 cette fois-ci, avec un casting quand même plutôt sympa, donc les 4 de son quartet de la veille, plus Okyum Lee. Sten Sandel, donc un pianiste norvégien, et puis 3 électroniciens, ça se dit pas, mais encore plus, je sais pas.
Il va falloir finir par le dire, parce que
voilà. Donc Sam Plutak, un jeune américain, et puis deux historiques qui sont Richard Barrett et Paul Obermeyer, qui a un duo qui s'appelle Furt aussi, que j'avais vu à Musique Action il y a pas très longtemps.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Sinon, un projet qui me tient à cœur, c'est une des rares rencontres en fait qu'il y a dans ce festival, parce que même si on est un festival où la ligne directrice c'est quand même l'improvisation, on fait très peu de rencontres. C'est vraiment un parti pris. Il y en a quelques-unes, mais
tu peux préciser, c'est-à-dire des gens qui
n'ont jamais joué ensemble, ouais. Ou en tout cas jamais dans cette configuration-là précise. Mmh. Et donc cette année. J'ai proposé à Jérôme Nottinger, donc Marcus Mikler et Francisco Merino de proposer un projet ensemble. Alors Jérôme avait déjà travaillé avec Marcus Mikler, il avait déjà programmé Francisco, je crois, au festival, à l'Audible Festival qui a lieu aux Instants Chaviré, ou à l'Échangeur, non, c'est plutôt à l'Échangeur de Bagnolet. Enfin voilà, ils se connaissaient tous un petit peu, mais ils avaient vraiment jamais fait un projet ensemble. Et
ce sont 3 électroniciens, donc.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Voilà, bon, Marcus Mikler qui est quand même un des monstres sacrés de la musique électronique expérimentale, Jérôme Nottinger, que je pense on n'a pas forcément besoin de présenter ici. Voilà, et Francisco Merino qui est aussi un Suisse, lui, qui vient de Lausanne et qui fait vraiment un travail vraiment très très intéressant. Donc ils vont. Le fait aussi que ça soit un musicien français, un musicien allemand et un musicien suisse pour un festival qu'on fait à Mulhouse, c'est aussi ça a du sens, dans le sens où vraiment Mulhouse c'est vraiment au cœur de, enfin, qui est au croisement de ces 3 frontières, et on a toujours historiquement invité beaucoup de musiciens allemands et de musiciens suisses aussi pour continuer cette connexion. Et puis là c'est de la musique électronique, mais bon, la free music, le vivier il est quand même notamment en Allemagne, quoi, clairement. Donc voilà, ça fait plutôt sens. Et voilà, bon, peut-être une ou deux légendes qu'on invite, notamment Kaspar Brotzmann. J'ai cru comprendre que tu étais un fan.
Oui.
qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps, qui a joué à Sonic Protest il n'y a pas très longtemps, avec FM & Night en duo, et là qui revient avec, alors, sous l'appellation de son trio historique, qui est Casper Potsman Massacre, avec un line-up qui est un peu, qui est assez nouveau. Ils ont fait quelques dates ensemble, je crois, à la rentrée 2015, donc avec le bassiste Massimo Puppio, qu'on connaît dans dans Zoo, notamment, mais qui a aussi joué beaucoup avec Gustafsson, etc., dans des contextes plus improvisés, et un batteur qu'on connaît moins, mais qui est un batteur suisse, qui vient plutôt de la musique contemporaine, qui est un percussionniste plutôt classique de musique contemporaine, et mais qui a une passion aussi pour la noise. Il joue avec Jock Lance aussi dans son ce projet Sudden Infant. Et voilà, il peut avoir une frappe très fine et une frappe très lourde. En l'occurrence, là, je pense que ce sera plutôt la frappe très lourde.
Oui, il y a des chances.
Il y a des chances, ouais. Voilà, bon, tout ça, évidemment, dans le désordre, je donne pas forcément les dates, mais bon, on trouvera tout ça en ligne. Un groupe qui est un peu phénomène aussi, qui avait été aussi programmé à Sonic Protest, que moi j'avais vu à Vels au Festival Music Unlimited, c'est un quartet de musiciennes danoises qui s'appelle Selvanter, qui fait une musique vraiment croisement de la free music, mais en même temps de la noise, etc. C'est un groupe vraiment en ce moment qui marche beaucoup, qui joue beaucoup, qui est vraiment très très intéressant. Alors à la base c'est un quintet, mais elles sont quatre parce que il se trouve qu'il y en a une qui est en congé maternité. Ils font des bébés. Voilà, donc elles seront quatre et on est très très content de les accueillir. Et voilà, je pense que quelque part on a fait un petit peu quand même grosso modo le tour de la question.
On écoute un petit morceau et puis après il s'agira de donner les informations
pratiques. Voilà. Alors je crois qu'on va écouter, tout à l'heure on parlait de James Blodolmer, qui avait joué avec Ornette Coleman, qui nous a quitté malheureusement il n'y a pas très longtemps, et qui jouera donc en solo dans un projet assez blues en fait, premier concert du festival, donc le mardi 25 au Théâtre de la Cine.
So are y'all ready to go? Just let me know when you're ready. Oh, you're ready to go? Okay. Damn. All right. I'm gonna take my music back to the church where the blues were misunderstood. Some people think that it was song of the devil, but it was the soul of the man for sure. Thank you. song you do, do, and religion. Make a poor man lose his soul. I'm gonna take my music. I'm gonna take my music. I did it, I'm gonna take my music. I did it, I'm gonna take my music. I did it, I'm gonna take my
music. Voilà, c'est James Blood. Alors peut-être on va donner les informations pratiques, les, tout ce qu'il y a à dire, le, est-ce qu'il y a un pass, les prix, où c'est.
Alors bon, il y a un certain nombre de concerts gratuits quand même, ouais, au festival. Ah, oui. Par exemple, tous les concerts de la chapelle qu'on a nommés, ils sont absolument gratuits. Les concerts aussi pour les enfants. Il y a le samedi après-midi, on a un projet qu'on a, dont on n'a pas parlé, mais un projet avec Yann Le Guay, qui est un artiste sonore qui vit en Belgique, mais qui est français, voilà, qui va jouer avec Arnaud Rivière, notamment, et Jérôme Fineau. Ça, ça sera gratuit. Et après, effectivement, il y a des concerts payants. On peut prendre un pass donc pour tout le festival, voire tous les concerts du festival. Donc, il y en a pas loin d'une trentaine. Voilà, donc il y a un pass à 75 euros pour tout voir. Chaque soirée coûte 20 euros. Où il y a deux ou trois concerts par soir, donc deux la première soirée mais trois concerts pour tous les autres. Et puis les après-midi, donc le mercredi et le jeudi, deux concerts, 8 euros pour les deux concerts. Et le vendredi, il y a un concert à 5 euros, donc la création de Jérôme Nottinger, Marcus Miclair et Francisco Mirino. Et puis des concerts gratuits à 19h aussi le vendredi et le samedi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour.
On va reciter le site.
Voilà, le site, donc www.festival-meteo.fr. Il y a absolument tout. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On essaie d'être un peu à la page des réseaux sociaux. Donc sur Facebook, Twitter. On a aussi un blog pendant le festival. Et je pense que c'est pas mal aussi pour le public d'aller voir ce blog, parce qu'on a des gens. Il y a des critiques des concerts, et pas forcément tout le temps positives. Hein, ouais. On n'est pas là pour. Voilà, il y a les photographes qui mettent. On essaye d'animer un petit peu ça et de trouver un angle aussi un petit peu décalé. Cette année, on aura peut-être même une émission de radio pendant le festival. Voilà. Avec notamment, peut-être que vous connaissez, quelqu'un qui fait une émission qui s'appelle Jazz et Gros Légumes à Orléans. Il faut absolument écouter ça, c'est absolument loufoque, mais absolument passionnant. Et voilà, bon, il y a pas mal de choses qui sont dans les tuyaux par rapport à ça, mais vous pouvez évidemment trouver toutes les informations.
Donc le festival Météo, c'est du 25 au 29 août 2015 à Mulhouse.
À Mulhouse, facile d'accès Mulhouse. Hein, il y a l'aéroport à Bâle qui est à côté, il y a le TGV qui arrive.
Ah, il y a le TGV maintenant, parce qu'à l'époque...
À l'époque, c'était pas le cas. Mais maintenant, de Paris, à 2h40, on est à Mulhouse. Donc
c'est la porte à côté.
Et puis des hébergements, pas forcément très chers, on peut trouver.
Oui, il y a l'auberge de jeunesse, il y en a qui sont en camping toute la semaine.
Ah, il y a camping, bien sûr.
Ah bon, évidemment, il y a des hôtels, mais il y a... Il y a des gens cette année qui m'ont dit qu'ils étaient en coach surfing, qu'ils avaient trouvé même gratos. Enfin bon, on peut donner quelques tuyaux s'il y a besoin. Pas de problème.
Ceux qui aiment les campings est vraiment génial. Chaque année, j'y vais en camping.
Ouais. Il y a beaucoup notamment de stagiaires, des jeunes stagiaires qui sont en camping. Donc je pense qu'il y a une bonne petite ambiance
c'est sûr.
On peut louer des vélos à la gare.
Ouais.
Faut se rappeler de rendre les vélos les samedis et pas les dimanches quand on est complètement saoul après la fête.
Niquez-le, rappelez-vous-en jusqu'au 29.
Parce que les dimanches, c'est fermé.
Est-ce qu'on a des annonces à faire?
Alors oui, il y a des annonces. Je vous rappelle l'exposition de peinture et de dessin de Anne van der Linden à la librairie jusqu'au 27 juin.
Jusqu'au
27 juin. Bien sûr. Donc c'est au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris.
J'y suis allé la semaine dernière, c'est très
bien. Je t'ai croisé, moi, Anne van der Linden, la semaine dernière. Ce soir, donc, toujours. Non, pas du tout. Non, c'est pas à la Publico. Ce que j'allais annoncer, c'est notre ami Jacques Pochat qui organise au 99, je pense, deux formations, Trip, avec Marco Kérésimin, Jean-Brice Godet et Julien Chamla, et Costet avec Timothée Coste, Alexandre Labonde, Gabriel Boyau, Loïc Vergniaud et Victor Roubert. C'est ce soir à 20h30 au 99 rue du Ruisseau, métro Porte de Clignancourt, participation aux frais 7 euros.
Et ça, je veux dire, pour ceux qui aiment vraiment les musiques inclassables, Trip, c'est vraiment quelque chose d'inclassable. Eux-mêmes n'arrivent pas à définir les genres de musique qu'ils font.
C'est vrai.
Ah. C'est bon signe.
C'est très bon signe. Deux propositions pour la fête de la musique. On fait pas souvent la promotion de ce truc-là, mais là il se trouve que il y a deux initiatives tout à fait intéressantes
et tout à fait en marge en fait. Hein.
Ah oui, c'est oui. Notamment le festival Upskiwan, c'est de 14h30 à 23h30 au Salaison à Romainville. Alors je vais vous dire tous les groupes qu'il y a. Fusillière on dit. City Dragon, Aerobaba, Deltanic, Mariachi, Sen From Salad, Raphaël Arditi, Hugo Bosquin, Chimera, Judith Kahn, Il Sole Pulsa avec l'excellent Marco et Jean-Michel Suzini, Carbon Sync, Balwan, Yashio, Rennes, Metro Pera, Frédéric Marty, notre copain, Silex, Patrick Cazel et les extraordinaires Fripon de Port avec Yedrek, Romaric Sobac qui sera bientôt notre invité, Charlie Sheen.
Et moi-même qui suis invité en spécial guest, mais je signale que le saxophoniste est en vacances et que donc il a une remplaçante qui est Cathy Eden.
Eh ben super.
Ah, wow.
Donc c'est
un centre de choix.
J'ai une petite correction, c'est Patrice Cazel et pas Patrick Cazel.
Ah oui. Pardon. Voilà. Tout ça, c'est au Salaison, 25 avenue du Président Wilson à Romainville. Mais Romainville, c'est à 10 minutes finalement à pied depuis le métro Méridé Lila, ouais, Marco.
Pas. Franchement, c'est vraiment tout droit.
Bon. Et n'oubliez pas de rendre votre vélo.
Tout à fait, mais on peut venir à pied. Hein.
Oui.
Là, bon, ça va, pas de problème. Il y a un autre endroit où il y a la fête de la musique avec des groupes intéressants, un petit peu plus populaires, c'est le cas de le dire, puisque c'est au théâtre populaire, une programmation plus éclectique, moins pointue, on va dire, hein, Marco. C'est au théâtre populaire du Renitas, 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement de Paris. Et pareil, c'est de 16h à minuit. Ça se termine par un espèce de bœuf punk, je crois. Et donc, les formations, c'est... Alors, c'est un faux nom, ça. C'est Elvira Tatoum et une partie du groupe, Elvira Tatoum. Hubert, Carole Masport, Jean-Jacques Nissen, les fameux Rossignols, mais sans frein ni pis. Les Moutons Tondus, Underclass, Émile Zoulou, Ernesto et nos copains Iva avec Laurent Jarry et Michael Sixou. C'est donc au 36 rue Henri Chauvreau dans le 20e, c'est vers Ménilmontant ça, hein, à partir de 16h. Il y a également d'autres concerts que je vous encourage à demander toujours pareil à notre ami Jean-Jacques de vous envoyer son agenda. Jean-Jacques, jjgfree@gmail.com. Il y a un certain nombre de concerts encore cette semaine. Et je termine par notre ami Yves-Marie Mahé qui vient animer souvent des émissions. Des oreilles libres, notamment des missions qui sont autour du cinéma. Il y a une alors je vais pas dire rétrospective, mais une grande partie de ces films qui vont être diffusés, notamment les plus récents. C'est au Cinéma La Clé, mardi 23 juin, Cinéma La Clé, 34 rue Daubenton, dans le 5e arrondissement de Paris. Séance rétrospective consacrée à Yves-Marie Mahé à 20h30 et ça coûte 5 euros. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va laisser la place à nos amis de sortir du colonialisme. Merci beaucoup à toi, Fabien.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis, j'espère peut-être à bientôt.
À bientôt
au festival. Rendez-vous au festival, voilà. À Mulhouse, du 25 au 29.
La semaine prochaine, Laurent.
C'est Sylvain Darifour hein, que j'ai invité à venir présenter son travail, donc un batteur, on peut dire, de jazz. Mais voilà, on en discutera avec lui.
Très bien, très bien. Et puis on se quitte avec quelle formation ?
Avec le trio Arashi donc, qui jouera le samedi, donc en soirée de clôture du festival, avec donc Akira Sakata dont on a parlé, mais aussi le batteur surpuissant norvégien Pal Nisselnov et le bassiste Johan Bertling.
Ben merci encore une fois à toi, merci les gars, et salut !
Ciao.